Bonjour à tous et à tous et bienvenue aux Attachés de presse, notre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Un nouveau format de 2 heures pour parler de politique et d'élections provinciales. On espère que vous allez apprécier. On commence ça dans un instant. Bonjour messieurs.
Bonjour Nick, comment ça va?
Ça va bien vous autres?
Ça va super bien.
On a un invité de marque aujourd'hui tout le monde, on va être transparent avec vous. On a un nouveau chroniqueur qui s'est ajouté à notre équipe. Un ami et collègue qui a des passions communes avec nous, la politique. Donc Félix, je laisse te présenter, première fois à radio, quand tu te sens?
Fébrile un peu, c'est le fun. Salut, je m'appelle Félix Gagné, j'étudie à... À la maîtrise en études politiques appliquées internationales et publiques. C'est ça, en gros, je suis passionné de politique comme les gars. C'est ça.
On va parler... Tantôt, on va présenter l'émission brièvement, en fait. Une émission chargée de 2 heures, tout d'abord, mais on a quand même des invités quand même intéressants pour vous. Tout d'abord, on a invité la professeure Marie-Ève Carignan du département de communication. Qui va nous parler de la violence faite qu'on voit à travers le Québec et ailleurs, la violence faite envers les élus ou les candidats ou les personnes du milieu politique et même médiatique. Donc c'est dans un contexte quand même très pertinent. Hier on en a parlé, chaque chef en a parlé lors du débat événement 5 chefs une élection. On va pouvoir en glisser un mot plus tard. Sinon, on accueille en deuxième heure, 14h15, pardonnez-moi, Danny Bernier, candidat du Parti conservateur du Québec dans Saint-François. Ça va être notre premier candidat qu'on va accueillir à l'émission. Puis, on est très, très heureux de vous présenter ce plan-là. Je sais pas si tu as d'autres éléments à mentionner, Marco?
Avec Mme Carignan aussi, on va discuter aussi de la confiance, en fait, des personnes envers les institutions démocratiques, là. Puis aussi, évidemment, du mouvement complotisme au Québec. Puis aussi, d'un ouvrage là, qui devrait sortir d'ici un mois. Je crois que c'est le 24 octobre. Je crois que cet ouvrage-là va sortir, écrit avec le professeur de l'École de politique appliquée, M. David Morin, qui est aussi directeur de la chaire de l'UNESCO en prévention et du radicalisme. Donc, on va discuter un peu de ça avec Mme Carignan. Puis justement, avec M. Bernier aussi, qui va être le premier candidat politique qu'on va recevoir aujourd'hui. Évidemment, on va discuter avec lui un peu de son parcours dans le fond personnel aussi, de ses intentions aussi.
Comment il s'est retrouvé au sein du Parti conservateur du Québec? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est à savoir pour comment une personne du milieu communautaire se dirige vers un parti de droite, tout simplement. Ça, c'est... C'est quand même une corrélation qu'on retrouve très rarement, puis on est quand même très intéressé d'en entendre parler dans l'entrevue qu'on va réaliser tout à l'heure.
Oui, puis effectivement aussi, on va aussi discuter avec lui, évidemment, de la plateforme du parti sur plusieurs enjeux. Puis aussi, on va aussi discuter, en fait, des enjeux de la communauté étudiante aussi. On sait que la circonscription de Saint-François regroupe aussi le cégep de Sherbrooke, là, qui est quand même une bonne population.
Et le campus de la santé également.
Et le campus de la santé aussi, qui est très important à mentionner. Donc, on va discuter avec lui aussi des enjeux qui entourent la communauté étudiante. Crise de logement, inflation, des trucs comme ça. Qu'est-ce que le Parti conservateur propose pour remédier à ces situations-là? Puis aussi, avec Félix, on va discuter aussi de la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Évidemment, avec l'élection qu'il y a au Québec, disons que ça passe un peu dans le beurre, là, la course à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Mais l'élection du prochain chef va avoir lieu le 10 septembre prochain, donc c'est samedi. On trouve que c'est important d'en parler aussi, faire un récapitulatif, dans le fond, du dernier mois aussi. Puis aussi parler aussi du mode de scrutin qui va être utilisé aussi par les conservateurs, qui est quand même assez intéressant. C'est celui du vote préférentiel, qui est rarement utilisé d'ailleurs, là. Souvent, on va utiliser, la personne qui va avoir, la majorité absolue, là. Donc, faire plusieurs tours jusqu'à temps qu'on arrive à ce qu'il y a un candidat qui a 50% plus 1, là, comme qui a été utilisé pour le Parti québécois lors de l'élection de M. Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, ça va être très intéressant. Sinon aussi, on va discuter évidemment de hier, de la soirée 5 chefs, une élection. On va revenir un peu sur la prestation de chacun des chefs aussi. Puis de
du quelques, format quand même intéressant.
Du format qui était très intéressant aussi. Là aussi, on va discuter de ça aussi un peu brièvement. Donc, émission relativement chargée encore une fois. Puis, qui s'annonce quand même très pertinente et qui annonce les couleurs pour les trois prochaines émissions dans lesquelles on va recevoir honnêtement essentiellement que des candidats.
on va en glisser un mot en conclusion plus tard pour le, désolé l'anglicisme, le planning de l'émission de la semaine prochaine. Au-delà de tout ça, en introduction, après, on se rappelle, hein, la campagne a été lancée le 27... Ish. On a commencé à mettre des pancartes électorales le 27 au soir pour annoncer la campagne électorale au Québec. Après une semaine et deux jours environ, qu'est-ce qui vous marque le plus? Est-ce qu'il y a un élément qui soit fait sourire dans la mesure où est-ce que c'est une idée intéressante ou des propos intéressants? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous déçoit, les gars, à date, après si peu de temps de la campagne? Ou quelque chose qui vous surprend aussi que vous attendiez pas, là? Y a-t-il quelque, qui veut s'élancer en premier?
Moi, je suis quand même, j'ai quand même été intéressé par l'événement qu'on va parler là, le débat à cinq chefs une élection, et toutes les l'événement était très intéressant. Sinon, tout ce qui est, tu sais, les plateformes sont sorties, c'est aussi intéressant à lire. Les plateformes environnementales de PQ et de QS qui sont semblables, ça c'est un peu un point d'interrogation qui va falloir se pencher dessus aussi dans les prochaines semaines.
D'ailleurs, on a fait la remarque hier à M. Saint-Pierre Plamondon là, justement là, pendant le 5 chefs une élection, que la plateforme environnementale était sensiblement la même. Puis on lui a demandé, je pense que c'est Mme Dussault qui a demandé, est-ce qu'on, c'est le début d'une nouvelle alliance PQ-QS sur le plan environnemental? Parce que dans le fond, les deux parties ont utilisé la même firme pour vérifier leur plateforme. Donc, c'est quand même intéressant là, ce que tu mentionnes, Félix. Mais pour ma part, évidemment, bon, c'est indéniable. Là, pour moi, c'est la violence faite envers les élus qui m'a marqué, honnêtement, là, après une semaine, là, de voir Mme Marois-Risky qui reçoit des menaces de mort, puis que la personne est relâchée immédiatement par la police avec peu ou pas de conditions.
On comprend les élus qui aient une certaine crainte et une certaine peur. Là. Tu sais, c'est insensé, là, selon moi.
Oui, exactement, mais c'est pas juste Mme Risky qui a reçu des menaces. Le monsieur Ciccone, député dans La Porte.
Marquette,
oui. Ouais. Monsieur Enrico Ciccone du Parti libéral dans Marquette, qui s'est fait littéralement là, défoncer son bureau de... des bureaux de campagne. Il y a aussi monsieur...
Qui fait ça, sérieux? Ben, ça n'a pas de sens.
Non, mais attends, j'ai pas fini. Il y a monsieur aussi Lévesque, député de Chauveau, de la CAQ, qui a reçu des photos de lui avec la face ensanglantée. Sinon, il y a des bénévoles aussi du Parti conservateur du Québec qui sont fait menacer au couteau, de menace de mort, entre autres. Même chose du côté de Québec solidaire, là, aussi des bénévoles aussi qui ont reçu des menaces. Là, vraiment... Ça marque beaucoup parce que la démocratie, c'est pas supposé être ça. Puis, je trouve ça de valeur qu'aujourd'hui, il y a un manque de respect puis un manque de cohésion dans le débat de la part d'une minorité. Puis, j'espère juste que ça va pas s'aggraver avec le temps puis qu'avec le résultat des élections, j'espère que certaines choses qui vont changer puis j'espère que le discours va pas nécessairement... J'espère que le discours va pas s'aggraver, tu sais. Qu'on aura pas une plus grande perte envers les institutions démocratiques. Puis c'est pour ça que c'est important aussi d'aller voter puis de s'impliquer aussi en politique dans notre vie communautaire. Là.
Chacun a le droit à son idée, à débattre n'importe quel enjeu, dans le respect, sans crainte de quelconque représailles. C'est parce qu'à l'heure actuelle, la campagne vient de commencer. Ça va être quoi plus tard? Est-ce que c'est un peu... J'ai la difficulté à expliquer puis à... Pas l'analyser, mais à concevoir quelqu'un qui, OK, t'as bien beau détester les idées de Québec solidaire ou du Parti conservateur du Québec, ça n'a aucune importance, mais de défoncer un bureau, faire des menaces comme inacceptables que tu fais, que c'est inconcevable de faire à quelqu'un, parce que la personne n'a pas les mêmes idées que toi,
Puis là, on parle pas encore là, de... Non, on n'a pas encore parlé de ce qu'il fait sur les pancartes électorales, là, des moustaches hitlériennes, des signes nazis, sur plusieurs pancartes, là, ça aussi, c'est inacceptable. Là. Mais c'est aussi une forme de violence. Là.
On va bien hâte de voir la suite des choses.
Puis aussi, c'est un phénomène qu'on peut voir aussi à travers le monde. Là. La semaine passée, là, c'est la vice-première ministre de l'Argentine là, qui a failli se faire assassiner en public. Là. C'est juste que son assassin, son fusil s'est enrayé en plein rassemblement. Là. T'sais, c'est quelque chose qu'on voit à l'échelle mondiale et qui peut être dangereux. Là. Puis c'est des trucs qu'on va discuter d'ailleurs avec Mme Carignan tantôt. Parce que honnêtement, on a plusieurs questions puis on s'interroge par rapport à ce sujet-là. Sinon, moi, toi, de ton côté.
Ouais. Là, je veux avertir tout le monde. C'est. Besonné partisan, mais c'est pas du tout ce que je m'apprête à dire. Vous allez comprendre ce que je veux dire. C'est que. On se rappelle, on avait parlé des slogans de différents partis, moi et Marco, la semaine dernière, oui, pardonnez-moi. Moi-même, puis même Marco, on était comme pas trop sûr de la direction du slogan du Parti québécois.
J'avais vraiment critiqué le slogan, puis je me demandais en quoi que deux phrases, ça pouvait être logique, concis. Puis je trouvais que le pour vrai était vraiment de trop, parce que le Québec qui s'assume, de base, ça aurait pu être un bon slogan seul, puis on pouvait enchaîner des idées. Mais là, honnêtement, avec la stratégie communicationnelle du Parti québécois, honnêtement, c'est quand même bien ce qu'il fait. Puis le slogan sort quand même bien dans les discours puis dans les intentions de M. Paul Saint-Pierre Plamondon.
Mais c'est surtout aussi qu'on en avait discuté. Moi-même, j'étais quand même plus ou moins certain. Où est-ce qu'ils veulent s'en aller avec ça? C'est long comme slogan. Qu'est-ce qu'il veut vraiment dire? Là, le Parti québécois, leur technique en ce moment, c'est avec certaines promesses ou même la quasi-totalité de leurs promesses. Ils enchaînent avec leur slogan qui vient, par exemple. Je veux juste prendre un exemple très, très, très rapidement. Je sors mon Twitter, là, ça sera pas très long. Où est-il? Ah non! Je mets toutes mes excuses, je le trouve pas très rapidement, mais par exemple sur une promesse le salaire minimum ou sur...
Ouais, c'était l'équité salariale pour vrai.
L'équité, c'est ça. C'est l'exemple le plus prenant que j'avais vu. Le Parti québécois a annoncé qu'il allait modifier la loi sur l'équité salariale au Québec et il propageait sur les réseaux sociaux en disant modification de loi sur les unités salariales, point, pour vrai. Et là, tu te dis... OK, donc leur slogan était pensé dès le départ, puis c'est avec cette machine-là qu'ils vont véhiculer leurs idées, leurs messages. Je trouve que ça donne une certaine prestance quand on prononce une idée, puis quand on veut le véhiculer à travers la scène médiatique ou envers différentes personnes. C'est que le Parti québécois s'impose, et ça c'est le message qu'il amène, s'impose comme un parti qui veut les vraies choses et qui promet des vraies promesses. Sans lancer des promesses et pas les respecter. C'est le message qu'ils veulent lancer, c'est que c'est un parti honnête. Et M. Paul Saint-Pierre Plamondon l'a dit hier, lors de la soirée 5 chefs, une élection. C'est quand même ma surprise, honnêtement. La campagne du PQ va très bien. Le monde a les sondages, ce qu'il y a 2 mois. Oh, on l'avait pas vu venir, là, les commentaires sur le Parti québécois disant que, entre guillemets, je le dis, là, le message véhiculé, c'est le Parti québécois est mort. Ben, pas sûr de tout ça, moi. Bref, c'est mon côté intéressant et surprenant de la campagne à l'heure actuelle. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. La campagne est jeune. Maintenant, avec l'événement hier à la soirée de Radio-Canada, 5 chefs, une élection, on va pouvoir en glisser un mot plus tard. Ça met la table sur une reste de campagne intéressante, honnêtement.
Ouais, puis là, tu parlais de sondage, là, justement, la firme de sondage de Main Street, là, qui est la seule firme en passant au Québec qui fait des sondages quotidiens, puis surtout des sondages locaux, là, pour déterminer, puis aller chercher des tendances. Là. T'sais, pour l'instant, là, chez Main Street, là, c'est la CAQ en avance autour de 38%. Ensuite, c'est le PCQ aux alentours de 17%. Ensuite, après ça, je crois que c'est le Parti libéral autour de 15%, QS autour de 13%. Puis après ça, le Parti québécois là, à 9-10%. Là. Mais c'est une augmentation pour le PQ, parce que pour le PQ, avant l'élection, on était à 7%. Donc, est-ce qu'on va voir le PQ monter à 10, 12, 13, 14%? Parce qu'honnêtement, pour la première semaine de la campagne électorale, là, honnêtement, je pense que c'est le seul parti qui n'a pas fait d'erreur. C'est le seul parti qui a respecté sa ligne de parti. Puis, on n'est pas allé à gauche, à droite, on n'a pas pointé du bout de doigt. Aucun
des autre idées parti. Aussi qu'on n'avait pas vues avant, des idées qui originales, je peux me permettre. La suite, on le verra. On le verra à la suite de la campagne. Sur ce, tout le monde, on s'en va en courte pause publicitaire et au retour, on s'entretient avec Mme Marie-Ève Carignan, enseignante au département de communication à l'Université de Sherbrooke. Ça part ici. Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Aujourd'hui, comme on l'a dit en début d'émission, on s'entretient aujourd'hui avec Mme Marie-Ève Carignan, enseignante au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Mme Carignan, bonjour.
Bonjour.
Donc, Mme Carignan, pour débuter l'entrevue, c'est quand même un sujet d'actualité, vraiment la violence envers les candidats des élections. Puis aussi, c'est un drôle d'addon, puisque hier, c'était, je ne veux pas dire 10e anniversaire, parce que c'est pas nécessairement une fête, là, mais c'était la 10e dixième année de commémoration des attentats envers Mme Pauline Marois, qui était alors élue comme première femme, première ministre du Québec. Ma première question, pourquoi on voit autant de violence envers les candidats politiques depuis les dernières années, mais plus spécifiquement dans les dernières semaines et derniers mois?
Oui, parce que comme vous l'avez dit, là, l'événement qu'il y avait eu envers Pauline Marois, c'était quand même un geste isolé. Mais quand même symbolique d'une chose, c'est que souvent on voit quand même plus de violence dirigée envers les femmes ou les minorités culturelles quand il y a des violences ciblées comme ça, politiques ou autres. Ce qu'on peut voir, c'est que depuis le début de la pandémie, il y a vraiment eu quand même une montée là de cette espèce de grogne-là contre les politiques et une espèce d'amalgame entre le fait que les gens étaient fâchés parfois par certaines mesures sanitaires qui n'ont pas toujours été bien communiquées ni bien expliquées. Et qui ont eu l'impression parfois que le gouvernement a peut-être abusé de son autorité. Donc, il y a eu toute cette crainte-là là, qu'on assiste à la fin de nos libertés. Et un mélange avec toutes sortes d'autres opinions politiques. Il y a beaucoup de leaders dans le mouvement là, contre les mesures sanitaires qui avaient aussi des idéologies politiques autres, beaucoup liées à l'extrême droite, beaucoup liées à des idées telles que les citoyens souverains, libertariens, donc antipolitiques. Et ça a un peu contaminé là, une certaine frange de la population qui se sont mis à avoir une grogne contre la politique puis à penser de plus en plus que la violence peut être légitime pour se faire entendre puisqu'on a l'impression là, que le débat politique mènera pas à se faire entendre. Donc, il y a vraiment un contexte de méfiance envers la politique, de méfiance envers la démocratie qui a alimenté ça.
Aussi, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a certains politiciens qui canalisent cette haine et violence-là et, dans le fond, ça fait juste l'accentuer?
Mais c'est certain qu'il y a des politiciens qui ont essayé de canaliser sur cette haine et cette violence-là. On a vu des politiciens qui ont pris part aux manifestations contre les mesures sanitaires, se sont présentés quand il y a eu l'occupation à Ottawa notamment, puis ont essayé de montrer qu'ils faisaient partie de ce courant-là pour aussi recevoir l'appui des gens qui étaient fatigués parfois de la pandémie puis des mesures sanitaires. Donc, il y a certains leaders qui très ouvertement, là, et nous ça a été un sujet de discussion, mais avec la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, on a sorti un rapport en mai, puis dans les leaders du mouvement conspirationniste qu'on a identifié là sur les réseaux sociaux, il y avait Maxime Bernier. Ça a été une discussion pour nous, mais clairement, lui, il s'est positionné pour les manifestations, puis il a voulu se présenter là comme un des visages d'opposition. Alors, c'était vraiment une espèce de façon de capitaliser sur ce mouvement-là, donc ça en serait un bon exemple.
Est-ce qu'on pourrait affirmer que c'est une tendance qui est visible à l'échelle mondiale? On a pu le voir la semaine passée, la vice-première ministre de l'Argentine qui a failli se faire assassiner dans un rassemblement public. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir à l'échelle mondiale ou c'est vraiment relativement isolé aux démocraties occidentales?
Bien, c'est certain que si on regarde dans tous les systèmes démocratiques en ce moment, il y a cette fatigue pandémique-là qui crée une méfiance. Il y a beaucoup de gens qui comprennent pas le fonctionnement démocratique, qui comprennent pas l'importance du débat social et qui cherchent d'autres façons de se faire entendre et qui passent par la violence. C'est particulier au Canada parce qu'on a quand même une histoire là assez peu violente puis peu d'expérience du genre. Donc, c'est sûr que ça attire plus l'attention que d'autres pays qui ont connu plus d'histoire ou de montée de violence là, politique. Alors, c'est pour ça que chez nous, c'est encore plus surprenant puisque c'est quand même des incidents isolés là, auxquels on assiste. Là, c'est vrai que le fait d'en parler aussi attire l'attention. Donc, plus qu'on en parle, plus qu'on dénonce et on voit à ce moment-là beaucoup de candidats politiques ou d'élus qui vont commenter là, les discours haineux auxquels ils ont assisté sur les réseaux sociaux, demander un resserrement de ces règles-là, dénoncer aussi différentes menaces qu'ils vont recevoir et ça canalise un moment où là, on en parle plus, mais visiblement aussi, on en parle plus parce qu'il y en a plus puis c'est documenté. On l'a vu dans les rapports là, de la sécurité publique notamment, là, il y a eu une hausse de ces menaces-là puis de ces comportements haineux.
Et évidemment, vous l'avez mentionné au Canada, là, mais qu'on pouvait voir cette violence-là. Bon, concrètement, dans les dernières semaines, il y a eu Mme Freeland aussi qui était confrontée à des menaces. Mme Risky du Parti libéral du Québec. Monsieur Lévesque dans le Chauveau, qui est le candidat de la CAQ sortant. De quelle sécurité bénéficient les candidats des partis politiques? Est-ce qu'ils ont droit à la même sécurité que celle des chefs de parti, par exemple, ou le premier ministre?
Non, pas du tout. Puis il n'y a pas juste les candidats de parti. On a vu notamment des bénévoles de campagne là, être victimes d'agressions en installant des pancartes, par exemple. Donc, on a vraiment vu des incidents même contre des simples citoyens là, bénévoles qui s'impliquaient. Alors ça, c'est inquiétant aussi parce que c'est certain qu'eux peuvent pas avoir le même niveau de sécurité. Déjà, vous parlez de Mme Freeland. Bon, au fédéral, on n'a pas le même niveau non plus de sécurité qu'au provincial. Donc là, présentement, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une espèce de rapport qui va être produit, une réflexion sur comment renforcer la sécurité des élus fédéraux, puisque c'est surtout autour du premier ministre Trudeau que se concentraient là, les mesures de sécurité. Au provincial, on en a plus, mais c'est certain qu'il y en a pas là, autour de tous les candidats politiques et c'est pas tous au même niveau. Donc là aussi, il y a une réflexion à savoir comment on peut au moins donner des formations, qu'est-ce qu'on fait si on fait face à des gens qui ont des propos violents, très fâchés, comment on prépare les gens peut-être pour des points de fuite pendant les discours publics. Donc, il y a différentes mesures auxquelles il faut réfléchir, surtout qu'en ce moment, ce qui est inquiétant, notamment dans le cas de Marois Risky, ce qu'on a vu, c'est que les policiers lui ont conseillé de rester chez elle, d'éviter d'être en public à la suite de ces menaces-là, surtout qu'on sait que l'homme qui est l'auteur des menaces là, a été libéré. Mais en pleine campagne électorale, on peut pas demander aux gens comme ça de rester chez eux, aux candidats politiques ou aux élus sortants. On est en train de brimer le débat démocratique. Si les candidats peuvent pas se faire entendre à un moment aussi charnière, mais c'est tout le fonctionnement démocratique là, qui est mis à mal. Puis ça, c'est inquiétant. C'est pour ça qu'il faut vraiment, à court terme, voir comment on peut renforcer la sécurité des candidats et des élus.
Vous venez de mentionner, justement, dans le contexte, parce que on peut pas demander à des candidats de rester chez eux, parce que, puis très rapidement, il va falloir amener des solutions concrètes à tout ça. Est-ce que, de la manière que vous l'exprimez, j'ai l'impression qu'on a un peu délaissé le problème, ou même qu'on a négligé ce genre de situation-là? Est-ce que vous croyez que ça aurait pu être évité, ce genre de situation, ou est-ce qu'on s'est trop quoi faire parce que maintenant les violences envers les élus, les candidats se multiplient et c'est un peu dangereux?
Mais éviter, non, il reste toujours d'y en avoir, mais c'est certain que prévenir davantage, oui. D'abord, on l'a vu là à la campagne électorale fédérale, il y en a eu des incidents, on peut penser quand il y a eu des gens qui ont lancé du gravier à Justin Trudeau, ou on peut penser même aux incidents haineux là, qu'il y a eu il y a quelques temps contre Jack Metzing. Donc on en a vu d'autres avant, alors c'est un signe qu'il faut se préparer à ça. La montée de la violence des discours en ligne, là, notamment pendant la pandémie envers le premier ministre Legault et puis différents ministres, c'est un signe aussi. Donc, renforcer peut-être la façon de gérer les médias sociaux, de prévenir cette sécurité-là pour les gens, mais aussi plus largement, c'est un signe qu'il y a quelque chose aussi qui fonctionne pas très bien en société, là, qu'il y a une grogne, puis un mécontentement social. Ça aussi, faudrait peut-être penser à comment on peut améliorer la communication avec les citoyens, démontrer un peu plus de transparence, trouver des façons là d'avoir des consultations publiques, puis améliorer les communications du gouvernement, parce que ce qui a alimenté cette grogne-là aussi souvent pendant la pandémie, c'est que les gens n'ont pas toujours eu l'impression que le gouvernement communiquait clairement qu'est-ce qui motivait ces prises de décision. Parfois, c'était clairement lié à la santé publique, mais parfois, il y avait des décisions là-dedans qui étaient beaucoup plus politiques. On n'a pas été toujours très transparent dans la façon de les communiquer, les raisons derrière ces décisions-là et puis les mesures. Et ça crée de la méfiance. Donc, il y a tout un système de communication qu'on aurait déjà pu améliorer pour peut-être freiner un peu cette grogne-là en ce moment.
Donc, on pourrait dire que la violence qui était virtuelle sur les réseaux sociaux s'est transférée dans la vie réelle, là, si je peux comprendre simplement. Là.
Mais en fait, les deux, en fait, non, elle s'est pas transformée, cette violence-là, mais elle est demeurée sur les réseaux sociaux. Donc, on voit encore une très grande violence sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs élus et candidats qui ont dénoncé, justement, cette semaine, la violence à laquelle ils étaient confrontés sur les réseaux sociaux, puis qui ont appelé à renforcer la modération sur ces réseaux-là. Certains ont dit, moi, je vais effacer les commentaires qui deviennent haineux sur mes plateformes. D'autres veulent carrément quitter les plateformes de réseaux sociaux, ce qui est encore une fois inquiétant pour le débat démocratique. Mais à côté de cette violence-là en ligne, dont certaines personnes ne seraient pas nécessairement prêtes à faire un passage à l'acte, disons, dans le monde réel, et qui parfois même des gens sont un peu inconscients des impacts que peuvent avoir ces commentaires en ligne sur leur vie en tant que citoyen. Mais à côté de ça, ben, on voit quand même qu'il y a une montée de gens qui sont prêts à passer à l'acte liée à une radicalisation de certaines croyances, notamment. Ce qu'on voit, nous, dans nos analyses là, avec la charte UNESCO-PREV, c'est notamment que les gens qui adhèrent davantage au conspirationnisme en lien avec la pandémie, mais pas que, là, au conspirationnisme en général, à la désinformation, ben, c'est des gens qui trouvent que c'est beaucoup plus normal que la moyenne des répondants dans nos données d'avoir recours à la violence pour se faire entendre. On n'est pas les seuls, là. Il y a plusieurs études de nos collègues, notamment McGill, qui confirment ça. Donc, une plus grande propension à la violence, plus grande utilisation de la violence à des fins politiques. Alors ça, c'est inquiétant. Il y a vraiment un lien avec la radicalisation des idées. Puis on l'a vu, là, il y a plusieurs leaders dans les mouvements complotistes qui sont nés de la pandémie, qui canalisent cette violence-là, qui s'en servent. Prenez juste, par exemple, il y a quelques semaines à peine, une des nouvelles influenceuses qui a créé son cercle, qui se fait appeler la Reine du Canada, et donc qui dit qu'elle refuse le gouvernement en place et que ce serait elle la Reine du Canada. Donc, elle rapporte un peu là, les propos de groupes libertariens, mais elle a quand même réussi à mobiliser un groupe de personnes qui voulaient arrêter eux-mêmes les policiers puis qui étaient prêtes à se mettre en danger là pour revendiquer les mêmes idées là que leurs leaders. Donc, ça, c'est inquiétant. Il y a des leaders qui sont capables de tirer profit de cette montée de la violence-là.
Vous avez glissé un mot tout à l'heure que il y a une corrélation entre les montées de violence et la confiance envers le politique. Puis je sais que vous avez glissé un mot aussi sur la deuxième partie de ma question, mais quelle est l'attitude adoptée pour régler ce type de climat social? Comment on fait pour améliorer la situation concernant la confiance envers nos élus ou bien notre gouvernement? Parce que de la manière que je vois la réalité, c'est que il y a beaucoup de risques que ça puisse escalader de plus en plus. Si on fait rien rapidement, je présume?
Il faut agir rapidement, mais à long terme aussi, on n'a pas le choix. Donc, il faut mettre en place des solutions à court terme, notamment là, à cette période-ci où on est justement en élection, ben, c'est de renforcer la sécurité des candidats pour qu'ils puissent faire une campagne libre, puis qu'on n'affecte pas le débat démocratique, qu'on n'affecte pas le droit de parole, puis le droit de débattre en société qui est tellement important pour nos sociétés démocratiques. À long terme, ben, il y a plusieurs actions à mettre en place. C'est certain que chez les plus jeunes, il faut renforcer l'éducation aux politiques pour mieux comprendre le système démocratique. Beaucoup de jeunes ne comprennent pas nécessairement le fonctionnement du vote, de la démocratie, l'importance du débat, de l'argumentation, renforcer même les connaissances sur les processus scientifiques, sur la confiance envers les sources d'information, comment juger d'une source d'information, éducation aux médias. Et à côté de ça, comme je le mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment de voir comment on peut aussi améliorer les processus politiques, donc davantage impliquer le citoyen, montrer plus de transparence, avoir une meilleure communication pour tranquillement, ça ne sera pas magique, puis ça ne va pas rejoindre tous les citoyens, mais peut-être aller rechercher une certaine confiance chez ceux qui sont davantage là hésitants, mais pas nécessairement très radicalisés, juste un peu incertains de la situation ou de la gestion pandémique. Donc, c'est en mettant en place des moyens à plus long terme qu'on va peut-être regagner là, une certaine confiance des citoyens envers la démocratie puis envers le fonctionnement social.
Ça, ce que vous mentionnez, c'est vraiment des moyens à long terme. Mais moi, de la manière que je peux regarder ça un peu sur les réseaux sociaux, c'est que aussi ça peut avoir un impact direct sur, dans le fond, la vie des gens puis ce qu'ils vont penser. Là, ici, je parle beaucoup là, en fait, du phénomène de la chambre d'écho. C'est quoi la responsabilité des réseaux sociaux sur la montée des mouvements complotistes et conspirationnisme?
Ben, on a tendance à donner beaucoup de responsabilités aux réseaux sociaux plus que ce qu'ils ont peut-être réellement. C'est certain que les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité, mais la pensée conspirationniste, la méfiance envers le système, ça existait bien avant l'arrivée des réseaux sociaux. Ce que les réseaux sociaux ont fait, c'est permettre à certaines idées de circuler beaucoup plus rapidement, beaucoup plus massivement, donc ça facilite, ça accélère l'adhésion, ça permet aussi, quand on parle de chambre d'écho, c'est que ça permet à des gens qui partagent certaines croyances qui sembleraient vraiment plus marginales en société, ben là, de se mettre ensemble puis de voir que on est plusieurs à partager ces croyances-là, donc ça peut venir renforcer mes croyances en me disant, ben, je suis pas le seul à penser ça, regardez, il y a plusieurs gens en ligne qui pensent. Donc, ils ont quand même un rôle relativement important dans la circulation, puis un certain processus, là, de sentir un effet de communauté qui parfois renforce mes croyances puis me donne envie d'y croire parce que j'ai l'impression de faire partie d'un groupe. Et il y a une autre responsabilité des réseaux sociaux, c'est d'avoir laissé circuler ces discours-là, donc de pas être beaucoup intervenu sur les plateformes en ligne, d'avoir peu modéré, d'avoir des algorithmes de recommandation qui ont souvent recommandé des contenus complotistes parce que ça attire les gens, ça les garde en ligne et donc à long terme, c'est payant pour les plateformes. Alors leur rôle est aussi d'avoir été très laxiste et très inefficace là pendant plusieurs années sur le contrôle des messages conspirationnistes ou haineux.
Sur un tout autre ordre d'idées, nous savons que vous allez bientôt publier un livre que vous avez coécrit avec M. David Morin de l'École de politique appliquée le 24 octobre prochain. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu le travail de ce livre-là? D'où est partie l'idée d'écrire un livre sur le sujet? On trouvait quand même ça pertinent dans l'optique de l'entrevue.
Oui. Ben oui, certainement, j'espère. Le livre, en fait, il va plutôt être publié en novembre. J'ai pas la date exacte en tête, mais il va peut-être retarder un petit peu. Donc, la sortie va être autour du mois de novembre. Ben, dans le fond, le livre, c'est un livre grand public. Donc, c'est vraiment un livre qui va s'adresser à tout le monde. C'est pas un livre universitaire. C'est un livre pour l'ensemble des citoyens qui sont intéressés par la question, qui va être distribué là, par les Éditions de l'Homme au Canada, mais aussi dans la francophonie européenne. L'idée derrière ce livre-là, David et moi, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment présenter un livre qui était accessible, qui expliquait le phénomène, puisqu'on a tellement entendu complotiste depuis 2 ans, mais sans vraiment comprendre ce que ça voulait dire. Donc, ce qu'est le complotiste, ce qu'il n'est pas aussi. On expose ça dans le livre, différents facteurs qui mènent à l'adhésion au complotisme, différents effets sur la société, puis surtout, ce qu'on voulait, c'est un livre de solutions. Donc, c'est un livre qui permet à des gens dont l'entourage, un membre de la famille, un ami, un collègue, adhère à ces idées-là, ben, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais pas faire. Donc, certaines pistes de réflexion pour mieux agir, puis rétablir un dialogue, puis un lien social avec ces gens-là. Mais aussi des pistes de solutions globales. Donc, en tant que société, un peu comme ce qu'on parlait par rapport à la violence, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que société pour peut-être là, rétablir certains ponts avec ces gens-là qui semblent vraiment s'être éloignés de nos croyances?
Rapidement et brièvement, parce que je sais très bien que vous ne voulez pas non plus dévoiler ce qu'il y a dans votre ouvrage, mais rapidement, comment on devient complotiste?
Comment on devient complotiste?
Oui. Oui, exactement.
Bien, il n'y a pas une façon. C'est certain que ça va dépendre d'une personne à l'autre. Donc, rapidement, brièvement, je dirais juste que c'est très varié, mais qu'il y a beaucoup de facteurs qui emmènent les gens à adhérer au conspirationnisme. Donc, à la fois, ça peut être des facteurs psychologiques, détresse, anxiété, qui me poussent à chercher des réponses sur des problématiques sociales et qui m'emmènent à adhérer à ça. Des fois, un sentiment d'isolement aussi, parce que, comme on le disait, les chambres d'écho, les groupes, ben, me permettent d'avoir l'impression d'appartenir à un cercle. La méfiance envers le gouvernement, la science, le journalisme. Donc, c'est beaucoup des facteurs qu'on va vivre là, d'isolement, de problèmes psychologiques, de méfiance qui vont pousser à ça, beaucoup plus que des facteurs, par exemple, sociodémographiques, l'âge, le sexe, l'éducation, tout ça. Ça peut jouer un peu, mais c'est pas le rôle majeur. Donc, vraiment, c'est des éléments sur lesquels aussi on peut travailler pour prévenir cette adhésion-là.
Madame Camerina, merci infiniment pour votre temps aujourd'hui, d'avoir participé à l'entrevue et de nous avoir éclairé un peu sur un sujet qui malheureusement fait mal puis qui est un peu qui fait un peu peur là, dans notre démocratie actuelle. On vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets de recherche ou vos d'autres rédactions de livres. Puis merci encore une fois pour votre temps ce matin.
Mais merci à vous, puis bon, mon succès avec la saison d'émission.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. On s'en va en courte pause publicitaire, chers auditeurs, auditrices, et au retour, on discute de l'événement d'hier, 5 chefs, un débat. À tout de suite sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Bienvenue aux Attachés de presse, notre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. On voulait faire un petit résumé de la... Je pourrais dire, c'était les discussions d'hier. On va utiliser le terme discussion parce que c'était pas un débat concrètement, puisque les chefs des différents chefs des partis hier à Radio-Canada participaient à l'événement. 5 chefs, une élection. Oui, je l'ai eu comme faux cette fois-ci. Mais oui, chaque candidat parlait avec 3 autres animateurs de Radio-Canada, dont Sylvain Roux.
Patrice Roy,
je m'excuse.
Céline Galipeau et Anne-Marie Dussault.
Merci Marco de me remettre à l'ordre. Mais oui, donc on voulait en discuter, un petit résumé, les points forts, points faibles de la soirée. Tu commences Marco? Je te laisse aller.
Oui, ben premièrement, ben tous les chefs ont eu la première question.
La même première question
sur le contexte actuel. Là. Beaucoup d'élus ont eu de violence, ont subi plusieurs formes de violence. Là. Donc, je vais résumer un peu chaque réponse de chaque chef. Là. Je trouvais ça quand même pertinent de le mentionner vu qu'ils ont tous eu la même question. Donc, du côté de M. Legault, qui était le premier. Là. D'ailleurs, là, pour l'ordre, là, l'ordre était choisi en fonction du nombre de députés qui étaient présents à la dissolution de la Chambre en juin dernier. Donc, c'était M. Legault en premier, Mme Anglade. Après ça, M. Nadeau-Dubois. Après ça, M. Saint-Pierre Plamondon. Et ensuite, M. Duhem pour conclure. Donc, pour ce qui est de M. Legault, on reconnaît qu'il y a une certaine violence sur les médias sociaux. Et celui-ci fait un appel au calme sur ce sujet-là. Puis aussi, il demande, évidemment, à ce que la population ne traduise pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux dans la réalité. Mais on ne propose pas réellement de solutions concrètes là, pour calmer le jeu un peu. Puis aussi, on l'a questionné aussi sur le fait est-ce que la pandémie puis la gestion fait en sorte d'augmenter l'agressivité et la violence sur les réseaux sociaux. Selon lui, ben il a répondu peut-être là, que ça a un lien peut-être avec les mesures sanitaires, mais bon, on n'est pas allé plus loin. C'est sûr qu'il va pas nécessairement dire oui. Là.
Il veut pas que ça fera en sorte qu'il y ait une maîtresse. Que les gens critiquaient ces mesures, dans le fond. Il est pas gagnant, là.
Ben non, ce serait pas gagnant. Ça aurait donné plus de jus, comme on dit, là, à M. Duhem, là, dans les débats en lien avec la crise sanitaire qui a eu lieu, puis aussi les décisions. Pour ce qui est de Mme Anglade, j'ai vraiment trouvé quand même pertinent aussi son approche. Évidemment, on a fait aussi un appel au calme pour Mme Anglade. Pour Mme Anglade, en fait, on a mentionné que la violence sur les réseaux sociaux se propageait dans la vie réelle, puis pour elle, c'était inacceptable. Puis que la solution se trouvait davantage dans la prévention accrue sur le terrain directement, donc dans les rues, là, que davantage dans la répression policière. Là. Donc, pour Mme Anglade, ça ressemble à ça un peu, pour faire résumer très rapide, là. Pour ce qui est de M. Nadeau-Dubois, évidemment, aussi, on a fait un appel au calme. En fait, tous les chefs l'ont fait, là, des appels au calme, là, évidemment, là, parce que sinon, ça vient entacher le débat démocratique. Pour M. Nadeau-Dubois, il voit plus l'occasion de faire une réflexion transpartisane sur le sujet, qui pourrait peut-être prendre forme, comme qu'il l'a mentionné, sur une commission parlementaire qui serait transpartisane.
Étant donné que ça touche tout le monde, tous les partis, toutes les personnes de chaque milieu démocratique, là. Donc, effectivement, ça c'est une idée quand même intéressante. Là.
Oui. Puis ensuite, du côté de M. Saint-Pierre Plamondon, ben, on en a profité pour souligner le 10e, je veux pas dire anniversaire parce que c'est pas une fête, mais la 10e année de l'attentat qui a eu lieu contre la première ministre du Québec, Mme Pauline Marois. Ensuite, il a décidé de pas pointer nécessairement quelqu'un du doigt pour le climat actuel, ce qui est quand même une forme de neutralité pour M. Saint-Pierre Plamondon. Puis aussi, pour remédier un peu à ça, il décide de faire une campagne, pour le citer, une campagne axée sur le positif, axée sur la démocratie et un projet de société dans lequel que tous pourraient se reconnaître là, au lieu de diviser la population sur certains enjeux. Donc, c'est ça la réponse qui a été faite par M. Saint-Pierre Plamondon. Puis du côté de M. Duhem, on a fait aussi encore un appel au calme. Là. On sait qu'il y a quelques partis qui le visent directement là, pour le climat actuel. Là, puis c'est pas nécessairement juste. Là. Pour M. Duhem, il s'agit d'avoir une responsabilité là, pour apprendre ses mots et ses termes. Là. L'agressivité et la violence, là, c'est un devoir et une responsabilité pour lui et pour un chef d'État d'en prendre conscience. On l'a questionné sur le fait qu'il entretenait, bon, au début, un discours qui était plus anti-mesures sanitaires et qui était liberticide. On lui a demandé si ces discours avaient nourri la colère d'une certaine partie de la population. Puis celui-ci a répondu que c'est davantage la crise sanitaire qui a contribué à ça. Puis que le fait d'avoir d'autres voix en démocratie était nécessairement sain à l'Assemblée nationale. Donc, encore une fois, on veut une présence des conservateurs à l'Assemblée nationale pour avoir une autre perspective et que tous les points de vue soient représentés. Là. Donc, ça fait un peu le résumé là, de la question pour les cinq chefs. Sinon...
Y a-t-il des sujets que certains chefs ont reçu des questions et que leur réponse est un peu fasciné ou bien que t'ont surpris un petit peu les réponses de certains candidats particulièrement ou bien... parce que j'imagine il y en a qui sont sortis gagnants de cette soirée de discussion hier.
Oui, il y en a qui sont sortis gagnants. Là. Je dirais que du côté de M. Legault, on l'a beaucoup questionné son bilan de mandat, évidemment. Là. Puis aussi, on lui a rappelé la promesse qu'il avait faite en 2018 comme quoi que il allait abandonner son siège s'il n'avait pas réalisé la promesse là, des Martinel 4 ans. Là. Puis écoutez, j'ai les chiffres avec moi, là. Pour 2018, on avait promis 5 000 Martinet 4 ans avec un coût de 200 000 $ par classe et on voulait un taux d'occupation des classes de 50 %. Bon, 4 ans plus tard, on a 1 600 classes de Martinet 4 ans avec un coût de 1,2 million de $ et un taux d'occupation de 18 %. Donc, on lui a demandé ensuite sur quelle promesse il voulait mettre son siège en jeu. Il n'a pas réellement voulu répondre à la question. Mais bon, ça laisse présager la suite des choses pour le reste de l'entretien qu'il avait eu. Sinon aussi, M. Legault s'est fait questionner sur une autre promesse qui avait été faite, celle des médecins de famille pour tous. En fait, là, cette année, la promesse change un peu. On veut donner accès à des professionnels de la santé dans un délai de 36 heures. Puis M. Legault a repris un peu la question qui avait été posée parce que il a mentionné qu'il y avait 6,4 millions de Québécois qui avaient un médecin de famille en 2018, puis qu'en 2022, c'était 2,7 millions. Donc, il y avait eu une augmentation des Québécois qui avaient accès à un médecin de famille. Mais quand on analyse un peu la réponse, on constate que oui, parfait, il y a une augmentation de la population qui a accès à un médecin de famille, mais de un, la liste d'attente s'allonge, ce qui a été mentionné hier. Là, on parle d'environ 500 000 Québécois qui n'ont toujours pas accès à un médecin de famille, mais aussi que le ratio de la population qui a un médecin de famille versus la population du Québec est demeuré le même. Donc, je vais expliquer un peu ici. Là. Quand on regarde, il y a 6,4 millions de Québécois en 2018 qui avaient un médecin de famille. La population du Québec, c'est 8 350 000 habitants. En 2018. En 2022, on a 6,7 millions de Québécois qui ont accès à un médecin de famille, mais la population du Québec est de 8,6 millions. Donc, la population a augmenté de 300 000 et le nombre de Québécois qui ont un médecin de famille a augmenté de 300 000. Donc, c'est bien beau de dire, hey, y a 300 000 Québécois qui ont un médecin de famille de plus, mais le ratio de Québécois qui en ont pas demeure le même après 4 ans. Donc, il n'y a pas nécessairement une avancée en termes de pourcentage.
C'est dit.
C'est dit. Aussi, on l'a questionné aussi comment envoyer des chèques, faire des baisses d'impôts. On peut maintenir le service de santé, les services publics. Il a seulement répondu que c'était faisable. Il n'a pas nécessairement proposé quelque chose.
Il a aussi parlé... de sa promesse, la promesse que issue de l'entente que le PQ, QS et la CAQ avaient formée ensemble en 2018 sur la réforme de scrutin au cas où un de ces trois partis prenait le pouvoir. Il a mentionné que le projet avait été abandonné parce que ça n'intéressait pas les Québécois. Ça, c'était une réponse quand même assez évasive, si je peux me permettre. Oui, entre autres.
Audacieuse.
Oui, qu'il n'y a pas eu vraiment de sondage ou de termes qui permettent de déterminer cela.
Ah, c'est... En tout cas...
Non, c'est ça possible. Il a dit il y a seulement les intellectuels qui s'intéressent à cette question-là, puis je vois pas en quoi les Québécois descendraient dans les rues pour un changement de mode de scrutin.
Ouf! Désolé, je m'excuse.
Bon, je pense autour de la table, là, ça fait pas mal l'unanimité là-dessus, là, pour le mode de scrutin, là, mais je crois que si vraiment, là, comme Félix mentionne... Là, on a une étude ou un sondage là, vraiment étoffé sur la question. Honnêtement, je crois qu'il y a plusieurs Québécois qui vont faire le mode de scrutin. Le 38 % du vote pour avoir plus que la moitié des sièges à l'Assemblée nationale puis prendre toutes les décisions. T'sais, si on l'explique comme faut puis on le vulgarise comme faut la question du mode de scrutin, je crois qu'il y a... Honnêtement, là, c'est sûr qu'il y a plus que 50 % des Québécois qui vont vouloir changer le mode de scrutin. Là.
Au-delà des paroles de François Legault hier à Radio-Canada, est-ce qu'il y a un des chefs qui, justement, vous a impressionné dans ses propos, dans sa manière d'expliquer les choses? Est-ce que... je posais la question comme ça, là, malheureusement. pour des raisons de travail, je n'ai pas eu la chance de regarder le débat en entier hier. Ben, la discussion en entier, pardonnez-moi. Mais rapidement, oui. Est-ce quelqu'un qui s'est qui est impressionnant?
Gabriel Nadeau-Dubois a été assez impressionnant, notamment des réponses bien construites, simples, des belles images dans ses discours. C'est ça, en gros. Paul Saint-Pierre Plamondon aussi, qui a bien martelé pourquoi, qui a bien martelé son plan, puis que ses réponses étaient aussi bien construites. Dominique Anglade, comme mentionnait Marc-Olivier plus tôt, que ses réponses étaient aussi bien construites, était bien attentive aux questions. Ses réponses étaient précises. Et en gros, c'est ça. Pas mal tout le monde s'est bien démarqué. François Legault, je trouve, a été plus évasif. Éric Duhaime un peu moins brillé que les trois autres. En gros, c'est ça.
Pour ma part, moi, ben évidemment, bon, ben je trouve que aussi Gabriel Nadeau-Dubois s'est vraiment démarqué là. On parlait là, tu parlais d'images là qui sont simples à comprendre. Là, il a mentionné là, au lieu de pointer du doigt des gens, je vais les accueillir à bras ouverts. Là, c'est quand même une belle métaphore là qui est quand même très simple à comprendre. Là. Sinon aussi, j'ai trouvé aussi quand même très mature là, honnêtement là. Tu sais, nous, ça fait plusieurs années qu'on le suit là, depuis 2012 là.
Puis, c'est pas Gabriel Nadeau-Dubois de 2012.
Et non, on a quelqu'un de quand même très mature là, devant nous, là, puis ça paraît là, qu'il y a une certaine expérience parlementaire aussi. Là. Puis il a même été questionné là-dessus, puis j'ai trouvé vraiment là, la réponse aux questions vraiment très pertinente, là, qui apportait un nouvel angle là, par rapport à M. Nadeau-Dubois, qui n'est pas nécessairement connu de la part de tous les Québécois. Là. Donc je trouvais ça vraiment intéressant. C'est très bien défendu sur les propositions d'environnement. On sait que le programme de Québec Soldat est extrêmement audacieux là-dessus. Comme par exemple, on veut interdire la vente des véhicules à essence d'ici 2030, des choses comme ça. Puis on veut réduire les gaz à effet de serre là, de, je crois, c'est 50% là, en 8 ans. Là. Vraiment, c'est quand même très bien défendu, même si son plan est ambitieux. Du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé la prestation aussi. A été très solide. Même si il a dû évidemment être questionné sur les lois 21, loi 96, puis est-ce que la souveraineté est encore une option pour les Québécois, puis aussi sur le fait que le programme environnemental est très proche de celui de QS, donc ça fait questionner là-dessus. Puis Madame Anglade aussi, bon, j'ai découvert un peu Madame Anglade là-dessus. Je trouvais qu'au dialogue jeunesse qui avait lieu à la fin du mois d'août, c'était pas démarqué. On analysait plus les questions qu'autre chose. Là, je crois qu'on a répondu davantage aux questions pour sous-questions, puis on était très attentifs. Puis pour ce qui est de M. Duhaime, ben écoutez, M. Duhaime avait un message à passer et il l'a passé comme d'habitude. Là, c'est le libre chez nous.
Il a eu un peu de difficulté, M. Duhaime, si je peux me permettre, à justifier le fait qu'il n'avait pas de cible de réduction des GES.
Aussi.
Merci, messieurs, pour vos propos. Nous, on s'en va en top de l'heure et en musique très rapidement. Et au retour, on continue notre émission Les Attachés de presse. Voici la deuxième heure des Attachés de presse sur les ondes de CFAQ 88.3, votre émission politique sur les ondes de la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. Merci d'être des nôtres pour une deuxième heure. C'est la première fois qu'on fait un format de deux heures, donc en espérant qu'on survive, même si je veux pas être trop alarmiste dans quoi que ce soit. Mais bref, on continue là-dessus en parlant de politique, mais maintenant, politique canadienne, je peux me permettre, ça va être la course, ben en fait, le vote pour le prochain chef à la chefferie du Parti conservateur du Canada aura lieu dimanche. Félix, tu as suivi la campagne corps et âme, si je peux me permettre l'expression. Mais oui, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce vote qui risque de s'annoncer très intéressant, mais aussi qui pourrait changer le Parti conservateur du Canada de manière très claire?
Ben c'est ça, c'est la course à la chefferie du Parti conservateur pour savoir qui va succéder à Erin O'Toole, qui avait un peu recentré le parti, si je peux me permettre. Là, on se demande justement si avec les prochains chefs, le parti sera plus sera maintenu comme où Erin O'Toole l'avait placé ou s'il se transportera vers la droite. Les résultats seront connus le 10 septembre prochain. Il y a 675 000 personnes qui se sont inscrites pour voter. Pour la chefferie du Parti conservateur.
C'est un chiffre quand même notable, je peux me permettre?
Oui, selon le Parti conservateur lui-même, c'est un des chiffres les plus élevés pour une élection de chef de parti.
On dirait une élection... Je veux pas qualifier ça de non-retour. Ce que je veux dire par là, c'est que cette élection arrive au moment où est-ce qu'il y a un Parti conservateur qui est... Elle a discuté à se définir, notamment avec sa base militante, puis avec l'horizon qu'il veut amener. Tu l'as mentionné tantôt, Félix. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter, Marco, là.
Ben ouais, mais effectivement, comme tu l'as mentionné, là, en fait, l'élection, là, est déterminante, là. Parce que, on le sait qu'il y a eu, là, 4 ans, il y a eu la formation de nouveaux partis politiques, là, au fédéral, là, le Parti populaire du Canada. Ce parti-là a fait très mal à une certaine branche des conservateurs, là. Donc, les plus à droite sont vraiment allés avec Maxime Bernier, ce qui a fait perdre quand même beaucoup de votes à M. Scheer en 2018. Là, ensuite... non, pas il y a 4 ans, mais en fait, aux dernières élections, c'était M. Otto.
En 2019 à Scheer, ouais. Et en 2021 à Otto.
Ouais, exactement. Merci pour les dates, Félix. Là. Donc, c'est vraiment quand même déterminant parce qu'on a vraiment des candidats là, de différents spectres politiques. Là. Félix, je sais pas si tu peux aller plus en détail là, avec peut-être les positions de M. Poilievre. Là.
Oui. En fait, comme vous disiez, c'est une élection déterminante à cause, mettons, du Parti populaire du Canada, mais aussi parce que le Parti conservateur est entre autres formé d'une alliance entre l'Alliance canadienne, notamment, et le Parti progressiste conservateur.
Une alliance historique là, qui date de 2003. Là.
Exactement. Ce qui leur avait permis un peu, en s'alliant, de prendre le pouvoir en 2006 et de le conserver jusqu'en 2015. Et il y a encore des membres qui sont un peu partout dans le spectre, justement dans les candidats de cette course à la chefferie. Il y a Pierre Poilievre, notamment, qui est connu comme plus à droite, un conservateur social, qui est, comme plusieurs analystes le disent, le meneur en ce moment, qui est député de la circonscription de Carleton, dans la région d'Ottawa, qui a obtenu aussi le soutien de l'ancien premier ministre Stephen Harper, qui est l'ancien premier ministre a noté notamment que son soutien était parce que Pierre Poilievre a été un des critiques virulents de Justin Trudeau comme député de l'opposition. Sinon, il y a l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, dans cette course. Ben oui. Que lui fait plus office comme de progressiste conservateur, des positions un peu plus progressistes au niveau social, plus un conservateur économique. Sinon, Leslyn Lewis aussi, conservatrice plus pure, si je peux me permettre, plus sociale, notamment une figure marquante de la lutte contre l'avortement au Canada. Patrick Brown aussi, qui était qui était un peu de la même veine que Jean Charest, plus un conservateur économique. Sinon, il y a Roman Baber et Scott Hutchinson qui, eux, se démarquent moins des autres, en gros. Il y a eu, en parlant de Patrick Brown, il y a eu son exclusion au cours de la course. Il a été exclu par le comité organisateur de l'élection du Parti conservateur parce qu'il aurait brisé des dispositions de la loi électorale du Canada liées au financement de sa campagne. Il aurait notamment comme recommandé à Deborah Jodoin, son organisatrice régionale de sa campagne, de travailler pour une compagnie privée et de faire du bénévolat pour la campagne. Donc, elle serait, pour son travail pour la campagne, elle serait payée par cet organisme privé, par cette société privée. Ce qui a pas passé, à partir du moment-là, c'est là qu'il a été expulsé. Il veut porter la décision en appel. Il a décidé de la porter en appel mais après, de nouvelles allégations contre lui sont sorties, notamment sur la vente d'adhésion non conforme de cartes de membres.
Chacun ses techniques.
Ce qui, c'est ça, ça y a fait mal un peu.
Parce qu'il était quand même dans le top 3 là, au moment où est-ce qu'il a été exclu du caucus, ben, de l'élection. Là.
Oui, pas mal, en fait. Tu sais, un peu, il était dans le top 3, je dirais... plus comme, mettons, dans le la situation où Pierre Poilievre serait premier, Jean Charest deuxième, et que lui et Leslyn Lewis se battaient un peu pour la troisième place.
Et aussi, ce qui est important à mentionner pour Patrick Brown, là, c'est qu'aussi, il est maire de Brampton, une ville en Ontario. Puis, peu importe ce qui arrive, il veut rester maire de la ville.
Oui.
Il serait représenté aux élections municipales.
Exactement.
Même s'il est reconnu coupable.
Hein. Ouais. C'est ce qu'il dit. Techniquement, j'imagine qu'il y a une... Je sais pas comment ça peut fonctionner là, d'avril, mais est-ce qu'il peut vraiment rester là? Ou bien,
ben ça dépend. Là. Éthiquement, non, évidemment. Là,
mais... Ça, mais légalement, oui. Donc, OK. C'est, ça. C'est ce genre de gars-là.
Il ouais, y a des gros enjeux éthiques. Sinon, il y a eu trois débats des chefs. Les deux premiers se sont relativement bien passés. Je sais pas, Marc-Olivier, vous en avez parlé plus tôt cet été.
Ouais, effectivement, le premier débat qui avait eu lieu en français là, était une catastrophe. Là. C'était plus un débat entre Poilievre, Brown puis Charest parce que les trois autres candidats qui sont moins connus ne parlent aucun... Ils parlent français. Ce serait insulter le monde qui parle français de dire qu'il parle français. Là. Il baragouinait le français. Là. C'était des positions vraiment peu claires et vraiment très évasives. Mais donc, c'était vraiment plus un débat à trois, le débat en français, là, ou même un débat à deux à un certain moment là, entre M. Poilievre et M. Charest. Là. Surtout que M. Charest était avantagé un peu, puisque le débat avait lieu, je crois, c'était à Laval. Là. Donc, tu sais, devant un public québécois aussi, ça peut aider. Là.
Et c'est ça, le troisième débat était aussi un débat à trois, parce que Patrick Brown avait déjà été expulsé au moment du troisième débat. Et Pierre Poilievre s'est absenté, malgré que si tu t'absentes, si un candidat s'absente à un débat, il peut recevoir une amende de 50 000 $.
OK.
50 000.
C'est quoi ses motifs, ouais?
Ses motifs sont son seul motif, en fait, très simple. C'est qu'il a jugé qu'il avait assez débattu avec ses opposants.
Donc, pour lui, il a déjà gagné la chefferie sans avoir réellement avoir lu vote.
Environ, oui, à peu près. sinon, Mme Lewis s'est aussi absentée parce qu'elle avait déjà pris un engagement à quelque part d'autre avec elle avait prévu de rencontrer des membres du parti. Fait qu'elle a dit qu'elle allait assumer les conséquences en tant que telle. Alors, le troisième débat dont Poilievre s'est accepté était dans son comté, là, dans sa circonscription.
Il était pas là?
Non.
Désolé. Mais chacun ses idées. Mais
chacun ses stratégies.
Oui, chacun ses stratégies. Mais ouais. dans il avait tout à gagner, en fait, M. Poilievre, dans son comté. Puis dans la mesure où est-ce que, comme on le mentionne depuis longtemps, c'est bien beau. Il y a beaucoup de division au Parti conservateur du Canada. Il faut qu'il gagne la voix de tout, d'un océan à l'autre, si je peux me permettre. Donc, ne pas débattre, c'est un peu curieux.
Mais en fait, je crois que aussi. Je comprends la question de pas débattre, mais je pense dans sa tête aussi, il a gagné, là, parce que Félix, là, tu vas nous en parler, là, mais je crois que c'est le candidat qui a reçu le plus de dons là, de tous les autres candidats, là, largement là, devant les autres. Là.
Oui, en effet, c'est le candidat qui a reçu le plus de dons. Il a reçu pour 36 000 dons, ce qui est en nombre, ce qui est le plus élevé, et le montant d'argent aussi, même si c'est les montants qu'il reçoit en général, en moyenne, sont moins élevés que ceux de Jean Charest. Il a reçu pour 36 000 dons et pour 4 millions de dollars, ce qui est l'équivalent de tous les cinq autres candidats, incluant Patrick Brown, qui participent à la course à la chefferie.
4 millions de dons?
4 millions de dollars en dons pour 36 000.
Wow, 36 000 à l'autre, je peux comprendre, mais wow, mm-hmm. C'est des chiffres astronomiques.
Oui, puis dans le fond, les 4 millions de dons de Pierre Poilievre représentent le montant total de tous les autres candidats en termes de dons.
Et même au Québec, Jean Charest a obtenu un montant de dons plus élevé, en fait un montant d'argent plus élevé selon ses dons, mais en termes nominal, Poilievre a obtenu plus de dons que Jean Charest.
Au Québec?
Au Québec.
Wow. C'est fou le dire, mais en même temps, je crois que la population québécoise a assez vu, si je peux me permettre l'expression de Jean Charest, surtout avec les scandales de corruption qui ont eu lieu pendant ses mandats et par la suite avec la commission Charbonneau notamment. Ça peut expliquer cette idée, ce décalage-là.
Oui, ça peut bien l'expliquer. Sinon, ces événements rassemblent plus de gens que plus de personnes que ses opposants. Il y a plus de sympathisants aux événements qu'il crée. Ces paroles peuvent être polarisantes, notamment celle de renvoyer le président de la Banque du Canada, ou celle de
sa position sur des crypto-monnaies aussi. Là.
Oui, oui.
Juste avant que ça chute. Mais là, il veut pas en parler depuis que ça a chuté. Là, mais...
Il souhaite aussi enlever les subventions à Radio-Canada, comme il répète, il martèle souvent, comme selon en anglais, comme « defund the CBC ».
Je comprends. C'est une idée. C'est que M. Poilievre est, comme on le dit, un candidat pas d'extrême droite, mais de droite sociale, de droite économique également.
Mm-hmm.
Peut-être qu'il va chercher beaucoup... il vient chercher beaucoup de sympathisants là, et de sympathie envers la population canadienne, surtout après les deux chefs progressistes que le parti a eu en Andrew Scheer et Erin O'Toole, là, notamment. Là.
Effectivement, on devrait assister, là, honnêtement, le 10 septembre à une fracture du Parti conservateur, comme qui a été mentionné plus tôt. Mais pour l'élection, moi, je trouve ça intéressant. On a parlé tantôt du vote préférentiel. C'est un mode de scrutin qui est très peu utilisé. Même dans les pays en Occident, le seul pays qui l'utilise, c'est l'Australie. Là. Mais Félix, pourrais-tu nous expliquer comment que se traduit le vote préférentiel le jour d'un vote?
Oui, c'est qu'en fait, c'est un vote par la poste. Fait que c'est c'est un vote postal. Fait que c'est le dénombrement qui se produit le jour du 10 septembre. Et comme tu viens de le mentionner, Marc-Olivier, c'est un vote préférentiel. Donc, chaque bulletin a les candidats et les 6 candidats affichés dessus. Et les bulletins ont été produits avant l'expulsion de Patrick Brown, donc encore les 6. Et ils devront numéroter selon leurs préférences, de celui qu'ils préfèrent à celui qu'ils aiment le moins ou qu'ils voient le moins être chef du Parti conservateur du Canada. Et ensuite, il y a dénombrement. Et pendant ce dénombrement-là, le candidat, s'il n'y a aucun candidat qui obtient plus de 50% plus 1 des votes, le candidat ayant eu le moins de préférence numéro 1 est retiré jusqu'à temps qu'un candidat obtienne cette majorité de 50% plus 1.
Quand même intéressant. Mm-hmm. Un beau moyen démocratique pour au sein du Parti conservateur dans leur vote. Est-ce que tu as, Félix, un léger mot de la fin ou même Marco là, avant qu'on aille en onde? En pause, rapidement?
Comme Marc-Olivier a marqué, élection charnière, les observateurs l'observent. Une fracture pourrait avoir lieu suite à ces élections entre la branche plus de droite et la branche plus progressiste-conservateur. Donc, ça reste un événement observé le 10 septembre.
Ça ouvre la porte aux libéraux pour d'autres mandats.
Aussi, ça, on pourra en discuter dans un autre épisode, mais effectivement, je pense à la même chose. On s'en va sur une courte pause publicitaire et en musique, et au retour, on s'entretient avec le candidat du Parti conservateur du Québec dans Saint-François, Danny Bernier. Restez des nôtres au sein de l'émission Les Attachés de presse sur CFAQ 88.3. Ça part ici. Bienvenue aux Attachés de presse, votre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. À l'instant même, on s'entretient avec M. Danny Bernier, candidat du Parti conservateur du Québec dans Saint-François. M. Bernier, bonjour.
Bonjour.
Donc, M. Bernier, premièrement, des petites questions pour apprendre mieux à vous connaître. Lors de votre discours d'investiture là, en juin dernier, vous êtes présenté comme étant quelqu'un qui travaille dans le milieu communautaire. Ici même à Sherbrooke, souvent les personnes qui émergent du milieu communautaire sont souvent associées à la gauche. En fait, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter pour le Parti conservateur du Québec à l'élection 2022?
C'est bien simple. Moi, c'est que j'ai lu le programme conservateur, puis vraiment, c'est quelque chose qui m'a attiré. Je veux dire, personnellement, je suis une personne assez cartésienne. Donc, moi, c'est un programme intelligent et réaliste. Ça l'est toujours. Donc, la plateforme là, est vraiment en ligne avec ce programme-là. Donc, c'est quelque chose qui m'attire. Puis, en effet, je fais beaucoup de communautaire. C'est un des aspects de ma personnalité, je vous dirais ça comme ça. Donc, mais oui, moi, c'est vraiment là, j'avais besoin de réalisme, j'avais besoin d'objectifs atteignables. Puis c'est avec le Parti conservateur du Québec que j'ai retrouvé ça.
Vous parlez d'objectifs cartésiens dans la plateforme du Parti conservateur du Québec. Est-ce qu'il y a des enjeux précis dans lesquels que vous êtes senti interpellé pour vous lancer en politique?
Oui, absolument. Ben, c'est sûr que moi, au niveau de la réduction d'impôts, c'est-à-dire de faire passer le premier échelon de 15 000 $ non imposables à 20 000 $ non imposables, puis le 2 % pour les échelons supplémentaires, le calcul se faisait rapidement que, ben là, on parle de, mettons, là, c'est toujours l'exemple qu'on donne, une famille de deux adultes avec deux enfants qui font en moyenne 80 000 $ de revenus annuels, c'est 3 500 $ qui ne paieront pas d'impôts. Donc vraiment, c'est intéressant. C'est de l'argent qui reste dans les poches des personnes.
Lors de votre discours d'investisseur, vous avez mentionné que les enjeux de la crise du logement, du prix de l'essence, du coût de la vie aussi, puis l'endettement de la classe moyenne étaient des enjeux qui vous avaient préoccupé. Comment que ces enjeux-là se traduisent dans la plateforme du Parti conservateur du Québec?
Bien, c'est sûr qu'on vise la réduction d'impôts, comme je t'ai parlé, aussi de retirer la taxe de vente sur les produits usagés. Donc, on parle beaucoup des voitures parce que c'est, entre autres, là, un des achats qu'on fait les plus chers dans une vie, je vous dirais, c'est les maisons puis les voitures. Donc, au niveau des voitures, de retirer la taxe sur une voiture usagée, mais c'est vraiment c'est de l'argent qu'on n'a pas à dépenser. Parce que taxer deux fois un même objet, que ce soit une voiture usagée, que ce soit un pound shop, là, comme on dit. Donc, c'est quelque chose que moi, je trouve aberrant à ce niveau-là. Je veux dire, on a déjà payé l'entièreté de la taxe sur le produit. Pourquoi payer une deuxième fois? Je pense qu'il y a des choses qui doivent changer. Puis, c'est sûr que retirer la taxe de vente sur l'essence temporairement, là, le temps que les choses se placent, qu'on puisse contrer un peu les problèmes qu'on a là, en ce moment. Donc, ça pourrait aider vraiment toutes les familles directement.
Mais vous n'avez pas peur qu'en enlevant la taxe sur l'essence, que justement les compagnies pétrolières ne décident pas d'augmenter leur marge de profit? Justement, on va ôter une taxe. Donc, est-ce qu'il y a une crainte chez vous que les compagnies pétrolières décident d'augmenter le prix au niveau qui serait avec la taxe?
Mais c'est sûr que je ne vais pas faire semblant que c'est un monde parfait et que personne ne va essayer de faire ça. Toutefois, ils l'ont fait en Ontario. Puis, on a vu là, une diminution directement à la pompe. Donc, vraiment, les compagnies n'ont pas utilisé cette possibilité-là d'augmenter le prix puis de mettre ça, de ramener le prix à celui qui était. Donc, ils laissent aux contribuables profiter de ce rabais sur l'essence.
Donc, puis aussi sur l'inflation, évidemment, là, au Canada puis au Québec aussi, c'est évidemment, bon, ça nous touche. Ça touche tout le monde, en fait. On parle environ là, entre 7 et 8 % là, l'inflation pour cette année. Qu'est-ce que le Parti conservateur du Québec concrètement veut faire pour lutter contre l'inflation, mis à part là, ôter certaines taxes là, comme qui a été mentionné plus tôt?
Oui, ben c'est ça. Comme je dis, déjà, c'est un tout qu'on doit faire. C'est sûr que contrer l'inflation, ça se fait de plusieurs façons. Comme on a mentionné, retirer les taxes, enlever la taxe sur l'essence aussi. Puis c'est aussi de contrer, je vous dirais, là, en laissant les sous dans les poches des gens, c'est de contrer le fait où est-ce que le gouvernement prend dans vos poches. Donc, c'est-à-dire on vous en laisse plus, puis vous avez le loisir de dépenser ces sous-là, soit dans votre épicerie, soit dans votre loyer, soit dans votre dollar loisir. Donc, on laisse la liberté aux gens de choisir leur argent, où est-ce qu'ils vont dépenser à ce moment-là.
Dernière question sur votre discours. En fait, il y a quelque chose qui m'a interpellé, puis j'aimerais que vous développiez un peu sur ce sujet-là. Vous avez mentionné qu'au Québec, qu'il y avait une pénurie de main-d'œuvre motivée. Qu'est-ce que vous voulez dire par une pénurie de main-d'œuvre motivée, de gens motivés, en fait?
On le voit parfois, on a un service à la clientèle qu'on se donne pas à 100 %. Moi, j'ai beaucoup travaillé, en fait, dans le service à la clientèle. Puis, on voit de plus en plus des gens qui disent, je peux pas travailler plus qu'une journée par semaine, deux journées par semaine. Sinon, l'impôt vient, ça vient me chercher dans les poches. Ou les étudiants qui disent, je vais perdre mon prêt étudiant, ma bourse étudiante. Donc, on veut améliorer les crédits d'impôt pour les étudiants qui entrent sur le marché du travail. Donc, ils vont être motivés à travailler plus. La même chose pour les personnes retraitées qui reviennent sur le marché du travail, c'est d'augmenter les crédits d'impôt pour les garder au travail, pour qu'ils soient motivés à rester avec nous. Donc vraiment, là, c'est quelque chose qui est important.
Donc une mesure qui va, dans le fond, qui touche essentiellement les jeunes étudiants ou les personnes âgées qui sont retraitées qui veulent venir travailler une ou deux journées par semaine, puis qui se privent de le faire, là, si je comprends bien.
Oui, absolument. Puis on vous dites jeunes étudiants, mais on peut être étudiant à n'importe à quel âge. Je voudrais dire que on a des prêts et bourses parce que le salaire annuel est impacté, impacte nos droits en prêts et bourses, le montant auquel on a droit. Mais ça devient important de jouer avec ces normes-là, puis d'améliorer le crédit d'impôt pour que ces gens-là se sentent pas pris à la gorge, de dire ben j'ai pas le choix de faire juste une journée par semaine, j'ai pas le choix de travailler seulement l'été, puis je peux plus après. Donc on veut les ramener sur le marché du travail.
Monsieur Bernier, un des enjeux quand même imposants de la campagne à Sherbrooke, mais dans la région, c'est le fameux trajet Montréal-Sherbrooke. On voulait savoir votre position là-dessus. Qu'est-ce que le Parti conservateur ferait s'il formait le prochain gouvernement?
En fait, le Parti conservateur ne s'est pas penché en tant que parti là-dessus. Moi, c'est un enjeu que, personnellement, en tant que candidat du Parti conservateur à Saint-François, c'est quelque chose que... C'est sûr que c'est important pour le développement de la région. C'est important aussi pour connecter les communautés. Puis, je vais être très honnête, on voit de plus en plus, on voit qu'il y a des jeunes qui ne vont pas chercher leur permis de conduire. Donc, c'est un changement qui s'opère dans la société. Moi, en région, c'est sûr que dans les grands centres, il y a de moins en moins de gens qui ont les permis de conduire ou qui possèdent une voiture. D'apporter un nouveau mode de transport ramener un ancien mode de transport, c'est quelque chose qui va motiver l'économie locale, qui va motiver aussi la connexion entre les communautés. Puis, vous parlez du lien Montréal-Sherbrooke, mais il y a aussi Sherbrooke-Quaticook et Quaticook-Boston. Donc, c'est un projet en trois étapes qui est un peu plus gros que ça, mais la dernière fois qu'on a fait un projet de train aussi énorme, ça a pris une vingtaine d'années. Donc, ils ont commencé le projet déjà, mais ça se pourrait que ça prenne énormément de temps avant que le projet voit le jour. Donc, c'est sûr que il y a des études en ce moment qui sont en cours. Il faut attendre les résultats de ces études-là, mais absolument que si on peut devenir... on est déjà à un point économique, mais si on peut bonifier ça, c'est sûr qu'on peut pas aller contre une volonté de développer la région.
En fait, la question était aussi surtout de développer un lien Sherbrooke-Montréal quand même assez rapidement, parce que évidemment à Sherbrooke puis à Bromont, il va y avoir des zones d'innovation en fait qui vont venir stimuler l'économie ici locale. Puis il faut relier rapidement en fait les deux régions. Ça fait longtemps évidemment que le train est suscité, mais est-ce que ça pourrait aller plus vite qu'il y a 20 ans pour laisser en fait, le choix aux gens de prendre soit leur voiture, en fait, d'offrir des alternatives très rapidement, au lieu de prendre la voiture, de développer aussi peut-être un réseau structurant de transport qui est mieux entre les deux villes au niveau du transport commun, puis aussi au niveau du train. Est-ce que à court terme, est-ce que ça pourrait en fait donner le libre choix rapidement aux gens au lieu d'attendre 10, 15, 20 ans?
C'est sûr qu'on n'a pas le choix de respecter certaines normes. C'est-à-dire, comme je dis, il y a des études en ce moment qui sont en cours, qui ont été défrayées par le dernier gouvernement. On a demandé des études, on a donné, le gouvernement a donné des sommes d'argent pour être sûr qu'on réalise ces études-là pour voir la possibilité de ramener un train soit à haute vitesse ou à basse vitesse. Puis, il y a aussi le transport en ce moment, les rails, c'est de la marchandise, c'est pas des gens qui sont dans les cars, les wagons. Donc, il y a des choses importantes au niveau de la sécurité. On n'a pas le choix d'attendre. C'est sûr que la mise en chantier peut être faite. Ça fait déjà 6 à 8 ans où est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur ce projet-là. Donc, on parle d'un projet en général, en moyenne, qui prend une vingtaine d'années. Ça se pourrait qu'on le voit dans 8 ans. Mais je vous dirais, est-ce que c'est important à court terme? Oui. Est-ce que c'est réaliste de dire que ça va être dans la prochaine année? Je dirais que c'est très, très peu probable. Avec des objectifs, comme je dis, très réalistes. On parle encore là, de plusieurs années. Est-ce que ça devrait être un enjeu de campagne cette année? Je crois que tout le monde a la volonté de bien faire, puis de, comme je dis, d'aider au transport en commun. Toutefois, est-ce que ce projet-là est réaliste cette année, même dans les 4 prochaines années? C'est possible que la réponse soit non. Malheureusement, j'ai pas toutes les études devant moi parce qu'ils sont toujours en cours de réalisation. Toutefois, je sais pertinemment que je vais me tenir au courant de ce projet-là pour la suite des choses. Absolument, que dès qu'on va avoir des nouvelles, on va en donner, puis on veut que ce soit le plus positif possible.
Pardonnez-moi, sur un autre ordre d'idée, la plateforme du Parti conservateur du Québec mentionne que le parti rendrait le transport gratuit dans la région de Québec. Le transport gratuit dans la région de Québec, oui. Est-ce qu'il y a des plans de ce type-là que vous mettriez en œuvre à Sherbrooke, puisqu'on trouve De mon côté, je trouve ça curieux de situer la gratuité du transport dans la région de Québec et ne pas spécifier les autres, le reste du Québec dans ce genre d'idée. Quelle est votre position là-dessus?
Ben en fait, ce qui est discuté à Québec, c'est un projet de pilote. Donc, c'est de faire l'essai avec un grand centre qui est Québec, de mettre le transport en commun gratuit, de voir des études sur l'achalandage. Est-ce qu'on a une augmentation? Est-ce qu'on a une diminution des voitures sur la route? Une diminution de la congestion du trafic? Donc, une fois qu'on va pouvoir calculer ça, puis ce que ça donne comme résultat, ben oui, absolument, l'objectif ultime, en cas de résultat positif, c'est de l'exporter à la grandeur du Québec, puis que ça fonctionne partout. Toutefois, si on se rend compte que cette mesure-là n'incite pas au transport en commun et que c'est de l'argent des contribuables qui est dépensé, admettons, là, je parle du projet de Québec seulement. Donc, si l'argent du Québec au complet pour une passe-test, on dit, bon, ben il n'y a pas de résultat concluant, est-ce qu'on s'en va vers d'autres orientations? Je pense que c'est important de faire justement des projets pilotes, des tests, parce que la réalité d'une région ne pas nécessairement s'appliquer partout. Puis une idée, ben c'est important de la tester avant de la mettre de l'avant.
Est-ce que, puis à Sherbrooke, par exemple, si on enlève la gratuité dans le transport, est-ce que vous avez des idées plus spécifiques ou concrètes que le Parti conservateur du Québec mettrait de l'avant à Sherbrooke?
Bien, c'est sûr que moi, comme je dis, en tant que candidat ici, il y a des choses que j'aimerais mettre de l'avant. Entre autres, je sais qu'à Sherbrooke, déjà pour les étudiants, on a la gratuité, donc c'est-à-dire que la passe d'autobus est payée à même le frais étudiant, je veux dire ça comme ça. Et ben c'est sûr que c'est quelque chose que pour toute la population pourrait en bonifier. Puis si on voit des retombées positives, comme je disais, sur le trafic, sur la congestion, sur l'utilisation de la voiture, c'est quelque chose vers quoi on va s'en aller. On peut pas être à l'encontre du gros bon sens puis de ce qui fonctionne. Le Parti conservateur veut aller de l'avant pour développer de façon économique. Puis justement, si ça permet qu'il y ait des gens qui trouvent un emploi un peu plus loin de la maison puis qui ont accès, ben c'est sûr qu'au final, c'est vers ça qu'on veut aller. C'est vers ramener des gens au travail. C'est vers régler une crise là, de la main-d'œuvre. Donc, si on peut trouver des solutions qui fonctionnent, on va les mettre de l'avant, absolument.
Oui, moi j'avais une question à propos, justement, le projet pilote de gratuité dans la région de Québec est surtout une alternative au projet de tramway. Alors, est-ce que la gratuité des transports en commun peut vraiment augmenter l'achalandage des transports en commun sans augmenter l'offre de service, sachant qu'il y a des endroits où les autobus passent peu fréquemment et qu'il est peu alléchant pour une personne de prendre les transports en commun?
Je vais vous demander, pardon, ça a coupé pendant la question, de répéter. Je suis désolé.
OK. Ce que je voulais savoir, c'est la gratuité des transports en commun est-elle réaliste sans augmenter l'offre de service des transports en commun, sachant que dans certaines régions, l'offre de service est tellement faible qu'il est peu alléchant pour certains usagers d'utiliser les transports en commun?
Je pense sincèrement que puisque c'est un projet pilote, ça va être à revoir ou même pendant qu'il se réalise. C'est-à-dire de voir, on a un achalandage qui augmente à tel et tel endroit, on a besoin de racheter des heures de service, un nombre d'autobus sur le réseau. Donc, c'est quelque chose qui va être adaptable parce que on parle de projet pilote, c'est pas un projet qu'on lance, puis on dit, bon, on prend une photo au début, on va prendre une photo à la fin, puis pendant le milieu de ce projet-là, on va le dire sur 3, 6 mois, 9 mois, 1 an, puis on arrête de le regarder. Non, c'est important d'avoir un suivi en continu, puis justement de voir c'est quoi les adaptations qu'on peut faire pour le rendre plus performant. Parce que la photo de début puis la photo de la fin, c'est si on fait pas un suivi serré à savoir ben c'est quoi les besoins, puis est-ce qu'on répond bien aux besoins, on sera pas en mesure de dire on a fait un travail complet à ce moment-là.
OK. Merci de votre réponse. J'avais une question aussi sur le santé. Il y a la santé. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme du Parti conservateur? On sait qu'il y a une idée de numérisation du système de santé et une idée de décentralisation du système de santé. Pensez-vous que ces deux idées sont compatibles?
Oui, absolument. Je pense que c'est justement des choses qui sont compatibles. Je veux dire, de fonctionner par fax, comme on a appris que ça se faisait encore le fréquemment, c'est pas une option qui est valable. De poursuivre, parce que c'est déjà commencé, de poursuivre la numérisation du système de santé, puis la décentralisation, c'est justement de laisser accès plus facilement, je dirais, à tous les endroits ou les points de service où ils vont y en avoir besoin. Donc, je pense que c'est deux mesures qui sont complémentaires ensemble. Puis justement en santé, on en parle beaucoup de, si vous voulez que je fasse du pouce là-dessus, là, je ne veux pas précéder vos questions, mais de rajouter du privé en santé. Donc pour certaines opérations, de dire bon ben si on dépasse un délai de un mois, deux mois, trois mois au service public, où est-ce qu'on dit si dépasser ce temps-là, ça n'a pas de bon sens pour une opération qui pourrait engendrer plus de problèmes chez un individu, ou est-ce que je prends l'exemple d'un genou, si on répare pas le genou de quelqu'un, ben c'est des problèmes peut-être de colonne qui vont suivre, de posture, ben c'est important que dans un temps à partie, cette opération-là ait lieu. Donc, on va prendre la carte de l'assurance maladie et on va pouvoir se retourner vers le privé lorsque on dépasse des temps acceptables dans le système public. Donc, ça permet, là, je vous dirais que quelqu'un qui n'a pas son opération à temps puisse changer de système, aller au privé, puis dire là, on prend la carte, puis on a notre opération, on a notre traitement dans le temps à partie.
Alors, la décentralisation serait alors compatible. Est-ce que vous pensez que la décentralisation entraînerait pas comme une décentralisation une décentralisation des données, dans le sens que ce serait peut-être plus difficile de communiquer les données avec plein de compagnies privées, de cliniques privées et le public, que ça rendrait la communication un peu plus difficile que si les données étaient toutes centralisées au même endroit?
En fait, la décentralisation des systèmes de santé puis la numérisation, elle, permet la centralisation des informations. Donc, on parle de deux choses, je crois, différentes. Puis à ce niveau-là, très, très technique, je vous dirais, selon le système numérique, puis là, je fais pas semblant d'être un expert, là, j'en suis pas un au niveau du domaine numérique. Toutefois, je pense que c'est des choses qui sont compatibles parce qu'on l'a vu, là, la numérisation des données nous permet de partager plus facilement des données entre personnes. On l'a vu aussi, je veux dire, on a fait un bond technologique pendant la pandémie. On n'a pas eu le choix, donc on a fait ce bond-là. Puis je crois que c'est un pas de plus dans ce sens-là d'aller vers ça.
Vous allez parler brièvement de la privatisation du système de santé. Je vais continuer un peu là-dessus. On sait qu'au Québec, ben je vais faire un peu un parallèle là, pour expliquer un peu ma question. On sait au Québec que le système d'éducation il est à trois vitesses. Là, je m'explique. Il y a une part au privé, une part qui est semi-privée et publique, et une part qui est publique. Puis on sait que avec le temps, aujourd'hui, on sait qu'il y a vraiment une disparité au niveau de l'éducation entre un élève qui va au privé, au public, ou au semi-privé, semi-public. Vous n'avez pas peur qu'avec la privatisation du système de santé, il y a une iniquité au niveau des soins accordés aux gens qui vont se faire soigner dans le privé et dans le public? Je parle d'iniquité au niveau de la qualité des soins, des vraiment. Là.
On a les ordres professionnels qui encadrent les soins, c'est-à-dire qui encadrent le professionnalisme de nos gens dans la santé. Donc vraiment, il y a déjà des mises en place pour s'assurer que les soins qui soient donnés par une personne ou par une autre respectent des certains standards. Donc moi, j'ai pas peur à ce niveau-là. Je veux dire, je veux dire à ce niveau-là, c'est peut-être au niveau du suivi. Peut-être que vous allez choisir de prendre plus ou moins de suivi selon le médecin que vous avez. Je pense que ça, c'est une considération qui est plus humaine que ce qui a trait aux soins qui est donné. Parce que je me fasse, je donne un exemple, une chirurgie mineure de retrait de grain de beauté, que je le fasse au privé ou au public, je crois que je vais me faire retirer mon grain de beauté puis que le résultat va être le même. Au niveau de l'éducation, c'est un autre domaine. Donc, j'aimerais pas mélanger les cartes avec ces deux domaines-là.
Parfait. Puis, justement, la privatisation, bon, évidemment, ça va permettre à certains médecins davantage de s'incorporer. On sait que quand qu'on s'incorpore au Québec, on a le droit à certaines déductions fiscales. Vous avez pas peur, justement, qu'en privatisant le système de santé, ça va augmenter, en fait, les dépenses faites, puis une baisse de revenus, justement, puisque les personnes qui sont issues du milieu privé ont droit à des déductions fiscales?
Pardon, je vais encore une fois, je suis désolé, j'ai une coupure de mon côté. Je vais vous demander de répéter la question.
Oui, sans problème. Dans le fond, j'expliquais que dans le fond, le que la privatisation du système de santé allait permettre à des médecins de pouvoir s'incorporer. Puis au Québec, lorsqu'on s'incorpore comme une compagnie, on a droit à certaines déductions fiscales. Puis dans le fond, ma question c'était, est-ce qu'il y a pas une crainte chez vous que dans le fond les coûts du système de santé allaient augmenter puisqu'on allait affaire avec le privé, puis que l'État allait dans le fond se priver de certains revenus avec dans le fond ces avantages fiscaux là que l'incorporation là, amène.
Non, en fait, les médecins sont déjà des travailleurs autonomes. C'est-à-dire que on les paie là, autant dans le système privé que public. C'est-à-dire qu'ils sont payés à l'acte. Donc, une opération au genou, ça vaut 2 300 $. Une hanche, je donne des chiffres là, inventés comme ça, mais une hanche peut-être 4 700. Donc, c'est déjà prévu selon l'acte qui est effectué. Donc ça, c'est déjà un barème qui existe, qui est là. Puis ce sont déjà des travailleurs autonomes. Donc l'incorporation, c'est déjà prévu l'enregistrement là, au niveau autonome à ce niveau-là. C'est sûr qu'il y a certains niveaux, je dirais, dans les entreprises, mais je crois pas que ce soit un enjeu, non, à ce niveau-là, parce que les crédits d'impôt existent déjà pour les gens qui sont travailleurs autonomes. Puis nos médecins sont travailleurs autonomes.
Donc, puis on va continuer sur un autre enjeu qui est unique dans votre plateforme du côté des conservateurs au Québec, l'exploitation de nos ressources naturelles. Là, ici, je parle en l'occurrence à ce qu'il y a trop de pétrole. Est-ce que le Québec est rendu en 2022 à exploiter ses propres ressources naturelles comme le pétrole alors qu'il n'y a pas réellement d'acceptabilité sociale pour les exploiter?
En fait, je vous dirais que les technologies ont évolué et le Québec aussi s'est développé. On a des gens qui sont compétents, qui ont les technologies, puis on a les ressources, les normes en place pour pouvoir mieux exploiter nos ressources naturelles qu'on avait il y a 30, 40, 50 ans. Je donne un exemple là, concret dans les ressources naturelles. On fait maintenant de la coupe sélective. C'est-à-dire que dans les forêts, on ne fait plus de coupe à blanc comme ça a déjà existé. On va aller faire de la coupe sélective. Donc, c'est fait de façon efficace, de façon encadrée, de façon intelligente. Je crois qu'on peut faire la même chose avec nos ressources naturelles dans presque tous les domaines. C'est-à-dire qu'on a déjà des normes où on va créer des normes puis on veut aller faire l'exploitation de ces ressources-là de façon intelligente puis avec les normes d'aujourd'hui puis avec les professionnels d'aujourd'hui aussi. Donc, vraiment, je pense qu'on a les moyens de se développer puis de dire, regardez, nous, on l'a fait. Peut-être à ce moment-là qu'on va pouvoir justement rayonner de nos professionnels et de nos façons de faire à l'extérieur du Québec puis même dans le monde entier.
Bon, évidemment, les nouvelles technologies aussi, on pourrait en développer en exploitant d'autres formes de ressources qui sont davantage renouvelables, tandis que le pétrole est une ressource qui va s'épuiser. On pourrait pas avoir une vision davantage futuriste qui est axée, évidemment, sur les nouvelles technologies puis sur l'innovation, mais avec d'autres formes d'énergie au lieu de, en 2022, exploiter du pétrole qui pourrait être considéré comme une énergie du passé un peu?
C'est sûr que moi, je suis pas contre le progrès de toutes les ressources qu'on va pouvoir exploiter dans le futur. En ce moment, le pétrole, on sait qu'il y en a, puis que c'est possible d'aller le chercher. L'exploitation du pétrole va continuer de se faire. Si ce n'est pas chez nous, ça va être ailleurs. Autant créer de la richesse chez nous, autant utiliser les travailleurs de chez nous. Je pense que c'est important de garder ça ici. Puis si on peut le faire, tant mieux. Puis absolument que si on peut développer des nouvelles ressources dans le futur, puis continuer d'avoir des travailleurs de chez nous, puis des ressources de chez nous qu'on va chercher pour créer de la richesse, pour créer de la productivité, je peux pas aller contre ça. Je suis même pour le développement économique. Donc vraiment, c'est quelque chose que je trouve important. Merci de l'avoir mentionné.
Pardonnez-moi, M. Bernier, merci infiniment pour votre temps pour l'entrevue. On vous souhaite une excellente fin de campagne et puis bonne chance pour l'élection du 3 octobre prochain.
Merci. C'était une très belle entrevue. Merci pour l'émission et je vous souhaite de passer une bonne journée.
Merci à vous aussi. Chers auditeurs, auditrices, on s'en va en courte pause publicitaire au retour. On conclut l'émission. On conclut notre émission d'aujourd'hui. C'était les attachés de presse sur les ondes CFA 83. Ça part ici. Bienvenue aux attachés de presse, notre émission hebdomadaire de politique sur les ondes de CFAQ 88.3. Grosse émission, les gars. On est sur le point de conclure l'émission d'aujourd'hui, la première sur un format de 2 heures. Faut dire que j'ai aimé l'exercice. Mais effectivement, une belle entrevue avec M. Danny Bernier. candidat du Parti conservateur du Québec, qui a bien défendu ses propos. Puis on le remercie encore une fois d'avoir pris le temps de répondre au téléphone de notre émission. Pour la semaine prochaine, je peux déjà vous lancer le planning de la semaine prochaine qui risque d'être encore plus chargé que cette semaine. Là. Laissez-moi sortir mes petites notes, ça sera vraiment pas trop long.
Ben en fait, sinon je peux y aller, là. J'ai les notes devant moi. Là. La semaine prochaine, on va avoir 3 candidats en direct, puis on va réaliser une entrevue préenregistrée avec Mme Saint-Hilaire qu'on va diffuser aussi. Malheureusement, Mme Saint-Hilaire n'était pas disponible pour la faire en direct, là. C'est pour ça qu'on fait la formule en différé. Mais ça va être sensiblement la même formule, environ 20-25 minutes.
Peut-être plus, on sait pas.
On veut pas vraiment plus.
Mais non, on veut pas plus. C'est...
Mais vraiment, là, on met un maximum, vraiment le maximum qu'on va aller, c'est 30 minutes pour laisser la chance à tous les candidats de passer, d'expliquer leurs propos, puis aussi de nous leur poser des questions. Donc, la semaine prochaine, émission chargée, comme tu l'as mentionné, on va recevoir Mme Sylvie Tanguay du Parti québécois qui se présente dans Saint-François. Sinon aussi, ensuite, on va recevoir M. Philippe Pagé, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Richemont. Aussi, on va recevoir, après M. Pagé, le député sortant de la circonscription de Richemont, M. André Bachand de la Coalition Avenir Québec. Et on va conclure avec l'entrevue qui va être réalisée, c'est le 8 septembre qu'on fait avec Mme Saint-Hilaire.
Ce jeudi qu'on va enregistrer le tout avec Mme Saint-Hilaire.
Ouais, oui, pour la diffusion lundi, qui est candidate de la CAQ à Sherbrooke. Donc ça, c'est ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Puis, on sait jamais, on a demandé une extension de 30 minutes en ondes pour qu'on puisse...
S'il y a quelques pépins en termes de nombre de temps, là, on sait, on aime ça jaser, alors on veut pas couper une entrevue fort intéressante ou est-ce qu'on a des débats d'idées ou bien on a des réponses intéressantes. Par manque de temps, surtout.
Oui, effectivement. Avec M. Bernier, on aurait pu continuer et parler d'autre chose aussi. Là. Mais l'essentiel des sujets qu'on voulait couvrir avec lui là, ont été faits. On voulait parler de l'exploitation pétrolière au Québec. On voulait parler de la privatisation du système de santé.
Son parcours à lui
aussi. On va apprendre à connaître aussi des candidats. Là, normalement, ils n'ont pas nécessairement une tribune pour mis à part l'investiture pour se présenter concrètement ou mis à part quand c'est des candidats vedettes. Là, comme Mme Saint-Hilaire, on sait c'est qui. Pas besoin de la présenter réellement. Mais c'est ça, on voulait parler de ça aussi. Puis aussi, quelques enjeux qui touchent la communauté étudiante, l'inflation, le coût de la vie, tout ça. Donc, vraiment, là, on a quand même bien rempli l'entrevue. Puis on aurait pu continuer très longtemps.
La semaine prochaine, les deux candidats de Richemont, M. Pagé, M. Bachand, en fait, on va être transparent avec vous. On va orienter un petit peu nos questions aussi sur des enjeux directement de la municipalité de Val-des-Sources. Pour la simple et unique raison que je suis natif de cette région, donc c'est mes députés, les députés à mes parents et les députés à moi, qui nous représentent à l'Assemblée nationale. Puis on trouvait que c'était un exercice quand même intéressant. On discute des enjeux de Sherbrooke, mais la circonscription de Richemont qui touche Rock Forest vient quand même toucher des municipalités dont certaines personnes voyagent beaucoup à Sherbrooke. C'est en fait la ville la plus grosse de la région de Val-des-Sources. Donc je connais beaucoup de monde qui voyagent à Sherbrooke très souvent, donc c'est des enjeux qui peuvent leur toucher aussi. Les personnes touchées à Val-des-Sources, c'est des personnes aussi qui sont touchées un peu par les politiques provinciales de la région de Sherbrooke. On trouvait ça intéressant de vous en parler, mais aussi de pour nos plaisirs personnels d'entrevue, on trouvait que c'était quand même assez intéressant. Là. Sinon, Félix, première émission en onde, comment t'as trouvé ça?
Ouais, j'ai aimé ça. C'était plaisant, c'était intéressant. Deux bonnes entrevues. C'est ça. J'ai vraiment aimé ça.
Simple et efficace. Pour chers auditeurs et auditrices, Félix va être très souvent avec nous pour au long de la campagne, mais aussi de l'émission. Reste à voir. Est-ce que tu veux endurer moi-même et Marco pendant 2 heures en studio? Ça, c'est à toi de décider, Félix. Ouf. Mais non, mais blague à part, les trois, on va suivre pas mal longtemps pendant la campagne, à l'émission. Moi, j'ai eu, encore une fois, le format 2 heures, j'adore ça. Moi, on dirait que ça passait vite en un claquement de doigts. Peut-être moi qui est fou aussi, là, je sais pas. Là. Je sais pas pour toi, Marco.
Oui, mais effectivement, vu que c'est la première émission, on a toujours la crainte d'avoir besoin de faire du temps, là, puis de manquer de sujet. Mais là, comme qu'on avait dit en meeting ce matin, là, moi, honnêtement, avec ce qu'on avait comme émission, je savais que même des... Tu sais, ça nous arrive des fois la semaine passée, on avait 1 heure, là. on a manqué de temps, là. Puis on s'était dit, ah, on va être correct. Finalement, on aurait pu continuer pendant une demi-heure de plus. Puis c'est arrivé souvent aussi cet été, quand on faisait le format d'une heure, qu'on disait, hey, on a oublié de mentionner ça, on a oublié d'expliquer ça, c'était important aussi. Vraiment, là, honnêtement, le format de deux heures, je crois qu'il va être propre à nous, puis vraiment très intéressant pour la campagne électorale, là. Parce qu'honnêtement, là, pour l'émission du 12, on a 4 candidats. Pour l'émission du 19, il y a 4 candidats. Pour l'émission du 26, il va y avoir 4 candidats aussi. Donc,
ça va rouler, comme on dit, comme l'expression le dit, là. Sinon, la campagne continue. Pour le moment, après le débat d'hier, on en a discuté, mais j'ai pas vu d'immenses annonces.
Ça reste l'affaire du travail aussi.
Comment tu dis?
Je dis ça reste l'affaire du travail aujourd'hui.
Ah, c'est vrai, on a oublié de parler. On a oublié de remercier travailleurs et travailleuses du Québec qui célèbrent la fête du travail. De notre côté, on la célèbre pas concrètement, mais en même temps, je me dis qu'on s'amuse en étant à la radio. Donc, pour moi, c'est pas un fardeau, c'est pas un poids. Au contraire, je suis excessivement content d'être en onde. Mais on voulait remercier tous les travailleurs et travailleuses du Québec qui méritent leur journée de congé. Toujours plaisant, début de septembre. T'sais, à l'heure actuelle, c'est dommage qu'il fasse vraiment pas beau à Sherbrooke, là, je sais pas. Mais bref, tout ça pour dire qu'on vous remercie. Et on a très, 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 très hâte de vous revoir la semaine prochaine pour plus d'entrevues, plus de contenu politique, plus de contenu associé à la campagne électorale du Québec. Et c'est pour ces, et on vous souhaite une excellente journée. Et on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission des Attachés de presse. C'est sur les ondes de CFAQ 88.3. Ça part ici. Au revoir. La